Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Dnevniki mira.
Europa 1.
Europa 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une petite heure de vadrouille. On continue tout l'été à écouter le monde changer. Et pour ça, on a choisi certains des grands reportages qui nous avaient marqué toute cette saison écoulée. C'est encore différent de les réentendre avec un peu de recul. Le monde change, par exemple, pour des agriculteurs de terres reculées du Kenya en Afrique. Le fumier de leur bétail produit désormais de l'engrais et du biogaz et ça change la vie des familles. Grâce au biogaz, j'ai pu économiser et finir la construction de ma maison. Avant, j'avais pas assez d'argent car je devais acheter du gaz régulièrement. Aujourd'hui, j'ai même pu m'acheter des meubles. Reportage à suivre et on fera un petit point sur le Kenya, souvent précurseur pour le développement d'énergie verte. Puis on entendra à nouveau l'une de ces voix qui porte pour alerter sur les changements climatiques. Hindou Oumarou Ibrahim est tchadienne. Elle a 35 ans, mais déjà 11 sommets climat derrière elle. Cette fille d'éleveur Peul sait de quoi elle parle.
Si on essaye de mettre sur la balance qui sont les experts, je crois que c'est les gens qui sont dans les communautés, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. L'innovation, c'est quand on se lève le matin, on voit qu'on n'a pas l'eau et on essaye de faire tout le possible pour marcher et aller trouver des sources d'eau, construire des solutions pour les jours suivants.
Construire pour le jour suivant, souvent pour ça, il est important de s'appuyer sur les leçons du passé. C'est ce qu'on fera en réécoutant deux reportages illustrant les 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'était en novembre dernier, un anniversaire qui avait été instrumentalisé par l'extrême droite allemande, le parti AfD, ce qui met en pétard les anonymes qui, eux, ont vraiment résisté au régime communiste et provoqué sa chute en
1989. C'est une usurpation des buts de la révolution de 1989. Ce que l'AfD veut politiquement, c'est l'exact opposé de ce que nous voulions. L'AfD nous a dépossédés de cet héritage, nous l'a volé.
Vous réentendrez aussi un homme, poète et chanteur qui a vraiment été un résistant au point d'être expulsé d'Allemagne de l'Est à cause de ses textes. Wolf Biermann a connu le système de l'intérieur et de dehors.
On ne peut se sentir libre réellement que dans les dictatures. Car quand on vit dans la liberté, on ne se sent pas libre. On est libre. La fleur de la liberté est toujours une fleur de cachot. Elle ne pousse que dans les cellules. Et quand la liberté est là, on ne la voit plus comme une fleur, mais comme un radis.
Je suis sûre que vous allez aimer rencontrer Wolf Biermann, entendre ses histoires d'espions et sa réflexion sur les nationalismes actuels. Et enfin, bien sûr, on bouclera ses carnets d'été avec Joseph Chovanec, notre guide en Autistan. Il était à Oman quand le très vénéré sultan qui régnait depuis 50 ans est décédé cet hiver. On avait été touché par son récit empli de symbolique. Les carnets d'été sont ouverts et on prend la direction du Kenya.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Devenir moins dépendant des hydrocarbures, développer les sources d'énergie propres, c'est une préoccupation mondiale pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Et dans ce domaine, à l'avant-garde en Afrique, on trouve le Kenya, champion de la géothermie notamment, qui produit pas loin de la moitié de l'électricité du pays. Et puis au début de la saison, au mois de septembre, notre correspondante Charlotte Simonard nous avait permis d'entendre comment les fermiers kényans créent de l'énergie verte à partir du fumier de leur bétail. C'est le biogaz. De grands réservoirs en briques ou en plastique sont installés dans les fermes et transforment les excréments en gaz et en engrais naturels grâce à des micro-organismes. Ces grands réservoirs, ce sont les biodigesteurs. Je vous propose de réécouter ce reportage tourné par Charlotte Simonard à quelques kilomètres de Nairobi, la capitale.
C'est une petite région agricole rurale, le comté vallonnais de Kiambu, à la sortie de la capitale. Dans la ferme de Amos Machare et sa famille, le biodigesteur, installé sous terre, révolutionne depuis 3 ans leur quotidien.
C'est ici que vous mettez les excréments avec un peu d'eau. Le biogaz se forme et sort par ce tuyau, puis le fumier ressort par là. Après 2 jours, on peut le répandre, par exemple, sous ces bananes.
Ici, la famille cultive du maïs, des bananes, des betteraves, mais aussi des oignons, des tomates et des épinards.
Regardez ces betteraves comme elles sont grosses. Avant, elles étaient plus petites, mais depuis qu'on utilise cet engrais organique, elles commencent à grossir et nous rapportent plus d'argent.
Cet engrais naturel est à lui seul une réponse à un problème majeur au Kenya, l'appauvrissement des sols dû à une déforestation massive. En 50 ans, la couverture forestière du pays a été divisée par 3. Elle atteint aujourd'hui seulement 7% du territoire. Bois de construction, d'ameublement, mais surtout bois de chauffage et charbon sont utilisés à outrance dans les cuisines des Kenyans des régions rurales. Mais le biogaz pourrait bien limiter drastiquement la coupe des arbres dans les prochaines années. Timothy Mwangi, directeur commercial du Kenya Biogas Programme.
Les excréments que produisent les animaux sont une ressource. Quand on les met dans le biodigesteur avec de l'eau, un processus de digestion s'opère et cela produit du gaz. Ce gaz est stocké et envoyé par un tuyau à l'intérieur du foyer. Le gaz peut être utilisé pour cuisiner, s'éclairer, pour faire fonctionner une machine agricole comme un broyeur par exemple.
Tout sourire, les yeux pétillants, Liliane, la mère de famille, n'est pas peu fière de sa gazinière.
Voici ma cuisine. Depuis que j'utilise le gaz du biodigesteur, je peux cuisiner avec 2 becs à gaz. Je suis très heureuse.
Liliane économise ainsi l'achat de 2 bonbonnes de gaz par mois et du bois de chauffage, l'équivalent de 50 euros, une coquette somme pour cette famille.
Grâce au biogaz, j'ai pu économiser et finir la construction de ma maison. Avant, je n'avais pas assez d'argent car je devais acheter du gaz régulièrement. Aujourd'hui, j'ai même pu m'acheter des meubles.
À ce jour, 21 000 fermiers ont installé un biodigesteur sur leur propriété. Au total, ce sont plus de 100 000 Kenyans qui bénéficient de cette nouvelle énergie. Le Kenya est leader sur le continent. Aucun autre pays ne compte autant d'utilisateurs de biogaz. Pourtant, assure Timothy Mwangi, le potentiel est encore largement sous-exploité.
Beaucoup de fermiers au Kenya élèvent du bétail, des vaches, des porcs, des chèvres. On estime à 2 millions le nombre de fermiers qui pourraient utiliser du biogaz. Mais pour chaque biodigesteur, il faut investir entre 600 et 1000 dollars. C'est beaucoup. Un fermier ne peut pas se le payer en une fois. Mais si le gouvernement donnait des subventions, alors les 2 millions de fermiers pourraient adopter cette solution.
De l'énergie verte, accessible aux 4 coins du pays, l'enjeu est aussi sanitaire, car au Kenya, 15 000 personnes meurent chaque année intoxiquées par la combustion de bois à l'intérieur même de leur foyer. Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Voilà, et depuis le tournage de ce reportage en septembre dernier, Charlotte Simonard s'est renseignée, 1000 nouveaux fermiers ont installé des biodigesteurs chez eux. Énorme potentiel de cette technologie, on l'a entendu, qui fournit à la fois de l'engrais et du biogaz. Avec Charlotte, on avait ensuite creusé un peu cette question de l'accès aux énergies propres, car des projets similaires existent aussi pour l'électricité. Et le Kenya mise beaucoup sur ces projets pour désenclaver les zones rurales. Écoutez les précisions que nous donnait notre correspondante.
On appelle ça des technologies off-grid, donc littéralement hors réseau. Ouais. Alors il y a par exemple ces kits de panneaux solaires pour les particuliers qui amènent tout simplement la lumière dans les foyers et qui permettent de recharger son téléphone, d'écouter la radio où que l'on soit dans le pays. Et puis il y a aussi les micro-réseaux, ce sont des petites centrales électriques qui fonctionnent à l'énergie solaire et qui permettent d'électrifier un petit village. Donc voilà les 2 modèles qui existent et qui se répandent aujourd'hui au Kenya.
Alors vous parliez d'accéder à la lumière chez soi, tout simplement. Pour les populations des régions reculées du pays, ça révolutionne leur quotidien, vraiment, l'arrivée de l'électricité comme ça.
Ah oui, tout à fait. Il y a des millions de Kenyans qui vivent dans des régions difficiles d'accès et cela coûterait très cher à l'État et cela prendrait beaucoup de temps de les relier au réseau d'électricité nationale. Donc le off-grid est clairement une solution. Vous savez, dans ces villages souvent oubliés, l'électricité crée tout un écosystème et une vraie dynamique économique. On peut ouvrir des petits commerces, des restaurants, des salons de coiffure par exemple. Les enfants peuvent étudier le soir chez eux grâce à la lumière. On peut stocker des médicaments dans des frigos. Donc l'électricité off-grid a un rôle social essentiel et même déterminant pour ces communautés qui sont en marge du développement du pays.
Pourquoi le off-grid s'est tant développé au Kenya en particulier, plus qu'ailleurs sur le continent ?
Alors, le point commun de toutes ces technologies, c'est le paiement mobile. Au Kenya, on l'appelle M-Pesa. C'est un système de transfert d'argent par SMS. D'accord. Il est adopté par les Kenyans depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, ça permet d'éviter aux investisseurs de devoir récolter du cash auprès de clients qui habitent souvent au milieu de nulle part. Mmh. Les utilisateurs, eux, évitent les déplacements en ville pour honorer leurs factures. Donc, c'est grâce à ça que le off-grid a pu rapidement se développer. Alors, d'autres pays de la région emboîtent le pas, comme la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, qui adoptent eux aussi le paiement mobile. Et en Afrique de l'Ouest, ces technologies off-grid, donc locales, sont moins répandues, mais tout simplement parce que le raccordement des populations au réseau électrique national est bien plus large et donc le besoin moins important.
Voilà, ces technologies off-grid qui permettent, grâce à l'énergie solaire, le développement de régions rurales, en l'occurrence des régions d'Afrique, ça existe et ça fonctionne. Dans un instant, je vais vous présenter une personnalité africaine, justement. Elle vient du Tchad, a une trentaine d'années et fait partie de ces personnes qui portent la voix des victimes du réchauffement climatique jusque dans les sommets mondiaux.
Europe 1, les carnets du monde.
Et après le développement du biogaz au Kenya, on poursuit avec cet autre sujet lié à l'environnement. Une rencontre qui nous emmène au Tchad, en Afrique centrale.
Au départ, c'était une rencontre faite par notre spécialiste environnement, Virginie Salmen, pendant le sommet de l'ONU sur le climat, la COP25, qui s'est tenue à Madrid en décembre dernier. Virginie était revenue en me disant « Oh là là, j'ai rencontré une fille étonnante, lumineuse ». Et elle avait partagé avec nous cette rencontre. On avait fait la connaissance de Hindou Umaru Ibrahim. Cette trentenaire vient du Tchad, issue d'une communauté d'éleveurs peuls. Elle est l'illustration même que le réchauffement climatique se vit et se règle d'abord sur le terrain. Elle est de ces personnes dont les voix percent aussi à l'aise dans son village qu'avec les grandes ce monde au sommet climat. Écoutez ce portrait de Virginie Salmen et l'interview d'Hindou Umaru Ibrahim.
C'est son énergie à la tribune de la COP25 qui m'a frappée, comme si elle voulait secouer tous ces négociateurs policés en costume, leur rappeler pourquoi elle, jeune femme de 35 ans, qui détonne en habits traditionnels dans les couloirs, elle est intégralement habillée en wax, un tissu africain, elle vit toujours au Tchad avec sa famille, leur bétail, un mode de vie nomade en 2020, pourquoi elle se rend dans ces grands raouts internationaux. C'était sa 11e COP quand même. Hein. Alors elle est militante écologiste depuis qu'elle a 15 ans, elle vient donc rappeler au monde que son peuple, à elle, n'émet que 0,05% de CO2 au niveau mondial, à comparer par exemple avec les 16,5% des États-Unis. Mais son peuple, à elle, subit le réchauffement de plein fouet. Toute leur vie est bouleversée. Hindou Umaru Ibrahim nous explique concrètement pourquoi. Ça commence tout simplement par la traite des vaches et donc le lait, l'un des aliments essentiels pour sa communauté d'éleveurs, les peuls.
Quand j'étais enfant, on traitait les vaches 2 fois par jour pendant la saison de pluie. Matin et soir, on peut avoir au moins 1 litre à 2 sur une vache le matin et le soir. Or, maintenant, pendant la saison de pluie, les gens traient 1 fois. Les ressources sont devenues de plus en plus rares. Il n'y a pas assez de pâturage. Par exemple, cette année, on dit que c'est une année d'où on a eu beaucoup de pluie. Mais pour quelqu'un de ma communauté, il va dire que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de la pluie qui compte. On a une pluie qui arrive pendant une semaine, qui inonde tous les pâturages et toutes les cultures qu'on a plantées. Après ça, il y a 2 semaines de chaleur, donc tout ce qu'on a planté est pourri. Et tous les pâturages qui sont naturels sont pourris parce qu'ils sont inondés. Et quand les 2 autres semaines, il y a eu le soleil sans avoir la pluie, tout devient sec, tout devient la terre. Et là, les vaches n'ont pas à bouffer. Et si les vaches ne bouffent pas, ils ne produisent pas assez de lait. Et les gens sont obligés de partir beaucoup plus loin. Et si les animaux partent loin aussi, ils se fatiguent. Et là, ils ne produisent pas assez de lait. Alors pour nous, c'est cohérent de voir que la quantité de l'eau ne représente pas la qualité des vies.
Donc c'est tout ce dérèglement climatique, ça change complètement l'alimentation des animaux et donc l'alimentation des humains.
Exactement. Maintenant, il y a beaucoup de changements d'alimentation dans ma communauté. Là où on ne voyait pas un paquet de pâtes, on voit un paquet de pâtes dans les communautés, dont même s'ils ne connaissent pas comment les préparer, ils apprennent et ils essayent de compléter leur alimentation. Et on voit qu'on est en train de développer la malnutrition des enfants dont on n'avait pas. on est obligé de compléter notre alimentation avec des nouvelles ressources qu'on ne connaissait pas et qui créent des maladies dont on ne comprend pas du tout, dû à certains manquements de l'équilibre alimentaire. On n'avait pas de cholestérol, on n'avait pas de diabète, on n'avait pas les maladies intestinaux dont on ne connaissait pas.
CQFD, la démonstration est très claire.
Effectivement. Ouais. Et l'idée qui monte parmi les penseurs du réchauffement, les penseuses plutôt, c'est que les femmes paient un plus lourd tribut au changement climatique. Elles en sont les premières victimes et ça aussi, Hindou Oumarou Ibrahim l'explique depuis des années.
Si on va dans les communautés, c'est les femmes qui sont chargées de toute la nourriture dans la communauté. Donc c'est elles qui connaissent là où collecter ses feuilles et ses fruits. Et c'est elles qui connaissent là où prendre l'eau. Et si elles commencent à tarir, parce que les baies l'ont piétiné beaucoup, qui disent non, on doit se déplacer à l'autre mare parce qu'ici, cette eau, elle n'est pas assez potable pour nous. Une petite fille de 5 ans, elles connaissent déjà là où se trouve la nourriture, là où se trouve l'eau, les rôles qu'elles doivent jouer dans sa communauté. Donc, c'est elles qui sont les premières impactées. Et quand on vient à la réponse au changement climatique, pour les hommes qui sont valides, ils disent « je vais partir en ville pour chercher plus de travail et renvoyer de l'argent à la maison si j'ai eu ». C'est cette femme-là qui va chercher l'eau, qui va chercher la nourriture, qui va taper ciel et terre pour nourrir ses enfants tous les jours, nourrir les personnes âgées, s'occuper de leur traitement médicinal en trouvant des plantes médicinales.
Donc c'est sur elle que ça retombe tout ça.
Elle joue les rôles de l'homme, elle joue les rôles de la femme. Et entre-temps, si l'homme, il trouve ce qu'il a trouvé, il rentre après 6 mois, il la retrouve debout sur ses pieds, valide et pleine de solutions. Donc c'est elle qui est la plus impactée, bien sûr elle est la plus impactée, mais c'est elle aussi qui est l'innovatrice et qui cherche des solutions tout le temps.
Voilà, c'est donc l'une des premières éco-féministes d'Afrique. D'ailleurs, elle est la seule femme peule défenseuse de l'environnement selon les médias de son pays. Et c'est étonnant parce que, alors je l'ai emmenée à travers les couloirs de la COP25 pour faire cette interview, on n'arrivait pas à avancer. Elle connaît tout le monde, de Paul Watkinson, le négociateur historique pour la France, à l'explorateur Bertrand Piccard. Elle leur tombe dans les bras, elle parle de l'avancement des négociations et aussi donc précisément du prix du carbone qui a beaucoup animé ces débats, cette affaire de gros sous qu'elle aimerait rendre plus concrète.
Au fait, on ne peut pas étudier les marchés de carbone sur un banc de table ou bien on ne peut pas négocier un marché de carbone juste en s'asseyant avec quelqu'un et en se basant sur « je suis expert en économie ». Ce n'est pas seulement la valeur du carbone qu'on doit compter. Un arbre, ce n'est pas seulement les troncs d'arbre et ses feuilles. Un arbre, c'est ses fruits, c'est ses fleurs, c'est ses insectes qui vivent avec. C'est ces oiseaux qui viennent abriter. C'est aussi l'écosystème qui est autour de cet arbre, dont les humains qui vivent avec. Et une fois que ceci est détruit, ça veut dire que ces gens sont déplacés, leur identité est perdue, leur culture est perdue, leur connaissance est perdue. Et donc, leur civilisation est menacée.
Et voilà, c'est clair, là encore. Hindou Oumarou Ibrahim fait le lien entre les communautés rurales africaines, les négociateurs des sommets internationaux, qui sont parfois un petit peu déconnectés de la terre, selon elle. Et elle, elle fait aussi le travail inverse quand elle rentre chez elle.
Oui, voilà, elle essaie aussi de faire prendre conscience des enjeux de ce qui se négocie aux paysans africains.
Quand on a commencé à parler des changements climatiques au niveau international, on dit que c'est juste deux mots. On va dans toutes les communautés, si on dit adaptation, personne ne comprend ces mots. Si on dit la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques, personne ne comprend ça. Mais si on dit les changements des saisons, la perte de la biodiversité, dont on n'a pas les herbes qui existaient, la fertilité des terres est en train de se perdre, là les gens comprennent tout de suite les mots. Et si on essaye de mettre sur la balance qui sont les experts, je crois que c'est les gens qui sont dans les communautés, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas l'effet de mettre des mots sexy qui fait qu'on est expert de ce qu'on parle. Mais le fait de vivre dans cet environnement et de voir avec les yeux ces changements et de se battre pour créer des solutions. L'innovation, c'est quand on se lève le matin, on voit qu'on n'a pas l'eau et on essaye de faire tout le possible pour marcher et aller trouver des sources d'eau, nourrir sa famille et construire des solutions pour les jours suivants.
Dans les propos d'Indou, Virginie, on entend énormément de bon sens, de pertinence. Est-ce qu'une voix comme la sienne est entendue dans ces réunions internationales ?
Alors très honnêtement, ça dépend des COP, hein, et des acteurs présents. Vous imaginez bien qu'en ce moment, les négociateurs australiens ou brésiliens n'ont pas grand-chose à faire de la mention droits humains dans le texte final d'un sommet. Mais ce qu'Indou Oumarou Ibrahim s'échine à faire, c'est justement peser ses mots, mettre du concret, de l'humain dans ces négociations. Et donc parfois, à force de persuasion, eh bien, elle réussit à améliorer ces textes.
Voilà, Indou Oumarou Ibrahim, tchadienne, écoféministe pétillante et qui parle en connaissance de cause. Et c'est grâce à Virginie Salmen donc, qu'on l'avait rencontrée cet hiver. À suivre, la chute du mur de Berlin en novembre dernier. Ça faisait 30 ans exactement que le rideau de fer était tombé. Et en Allemagne, l'extrême droite a tenté de récupérer l'événement.
Europe 1, les carnets du monde.
Dans ces carnets d'été, on revient sur une commémoration importante qui a marqué l'automne dernier, celle de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989.
L'Allemagne a commémoré bien sûr cet anniversaire. 30 ans auparavant, le mur tombait. C'est tout un pan d'histoire qui s'écroulait. Alors évidemment, il n'est pas tombé en une nuit. Ça faisait des semaines que la RDA, l'Allemagne de l'Est, était le théâtre de grandes manifestations pacifiques, notamment le 9 octobre à Leipzig, cette nuit où tout le bloc de l'Est à l'époque retient son souffle, avec la peur que Moscou envoie les chars pour mater la contestation. Gorbatchev a finalement laissé faire. Et le slogan des marcheurs de Leipzig, le fameux « Wir sind das Volk », « Nous sommes le peuple », est devenu le cri de cette révolution pacifique de 89, le cri de la réunification. Le petit problème, c'est que cette archive sonore que l'on vient d'entendre, elle ne date pas de 1989. Ce slogan, c'est notre correspondante Hélène Cole qui l'avait enregistré dans le courant de l'année 2019 lors d'une manifestation du parti d'extrême droite, l'AFD. Hélène Cole, fine observatrice de la vie politique allemande, a décrypté pour nous le contexte de cette récupération, repérée notamment en Saxe où elle avait couvert justement les manifs de l'extrême droite.
Oui, en Saxe, la même où la révolution de 89 a commencé et où aujourd'hui l'extrême droite bat des records à 24% des voix, avec un discours anti-migrant, mais aussi, et c'est nouveau, un discours qui s'approprie complètement l'histoire de 89, au point que les membres du parti s'appellent entre eux désormais Bürgerrechtler, on peut traduire ça par militants des droits civiques, mais c'est surtout le terme officiel des historiens pour désigner les initiateurs de la révolution de 89.
Les héros anonymes de 89 en quelque sorte.
Exactement, comme Reinhard Weissoun, qui à l'époque faisait partie d'un groupe dissident interdit à Berlin et qui est très en colère aujourd'hui.
C'est une usurpation des buts de la révolution de 89. Ce que l'AFD veut politiquement, c'est l'exact opposé de ce que nous voulions. L'AFD nous a dépossédés de cet héritage, nous l'a volé.
On entend l'amertume dans sa voix.
Oui, parce que Reinhardt et ses anciens amis assistent à l'instrumentalisation de leur révolution sans rien pouvoir faire. Ils ont publié cet été une tribune pour dénoncer cette récupération, mais elle n'a pas eu beaucoup d'écho, car la révolution de 89 s'est faite en réalité sans aucun leader. Certaines figures importantes ont émergé après la chute du mur. Ouais. On pense notamment à une certaine Angela Merkel, qui est entrée dans la vie publique en 90. Mais vraiment, les artisans, les petites mains des manifs de Leipzig, de Berlin, ceux qui avaient des cercles de parole clandestins, ceux qui ont bravé les soldats avec leurs bougies, eh bien, ils n'ont jamais fait la une. C'est une révolution sans visage.
Et du coup, sans gardien du temple pour protéger cette mémoire. Elle est récupérée par les populistes.
Oui, écoutez, ces deux hommes politiques d'extrême droite, d'abord Alexander Gauland, qui est le coprésident de l'AFD, c'est en meeting le mois dernier, et puis Björn Höcke, qui est le candidat de l'AFD en Thuringe, une région d'Allemagne de l'Est, où l'on vote dans deux semaines.
Comme autrefois, aujourd'hui, des citoyens insubordonnés descendent dans la rue pour réclamer leurs droits. Et de nouveau, ces militants des droits civiques sont pourchassés par les hommes du régime, diffamés dans les médias et dénoncés sur leur lieu de travail.
On a l'impression d'être de nouveau en RDA, chers amis. Et ce n'est pas pour cela que nous avons fait la révolution. Nous ne voulons jamais avoir à revivre ça.
Alors sur ces affiches, l'AFD appelle les électeurs à corriger la révolution. Gesine est l'une des premières à avoir défilé à Leipzig en 89. Elle voudrait arracher un à un chaque panneau électoral promettant d'achever cette réunification.
Ça m'énerve beaucoup. À l'époque, on voulait plus de droits, comme le droit de manifester, la démocratie, la liberté de voyager. Tout ça, on l'a obtenu au cours des 30 dernières années.
Et puis Gauland ou Höcke, les chefs de l'extrême droite, ils viennent, Sophie, de l'Ouest, pas de l'Est. Et cette récupération est particulièrement odieuse pour ce jeune élu rural qui a vu les murs de sa commune se couvrir d'affiches de l'AFD.
Il vient d'où ce Höcke ? Il nous parle de révolution achevée, de réunification 2.0, mais il ne l'a même pas vécu. À l'époque, il avait 17 ans, au mieux il regardait les infos à la télé. Quelle perfidie ! Comme un poète l'a écrit en 1933, après avoir vu les marches nazies, on a envie de vomir. Mais on ne pourra jamais assez manger pour répondre à ce dégoût.
Toute cette histoire, c'était seulement il y a 30 ans. On ne parle pas d'événements très anciens. Hélène, comment est-ce possible que les gens, ou au moins certaines personnes, puissent se faire berner de la sorte ?
Parce que l'histoire de la RDA est très peu enseignée, Sophie. Écoutez, Laurence, il a 15 ans et il habite à Dresde, la capitale de la Saxe.
Certains de mes amis racontent que ce n'était pas si terrible que ça en RDA. Ils disent qu'il y avait le mur, mais pas la Stasi, pas l'oppression politique et qu'on pouvait entrer et sortir comme on voulait. Ils pensent ça parce que leurs parents le leur disent. Les profs peuvent expliquer tout ce qu'ils veulent, ils n'y croient pas.
Ah, quel déni.
Et puis toujours à Dresde, j'ai pu parler longuement avec un couple qui a participé aux marches en 89 sans pour autant être de vrais opposants militants. C'est Eberhard et Bianca.
Il faut rappeler aux gens ce qui s'est passé vraiment. Ils ont tout oublié.
Tout était interdit, même émettre des souhaits pour choisir un métier. C'était impossible. Tout était régulé. Je me demande sur quoi se basent les gens quand ils disent que c'était mieux avant. Cela fait 30 ans maintenant. Ceux qui ont vraiment connu la RDA avaient au moins 30 ans à l'époque. Ça veut dire qu'ils en ont 60. Et on ne doit pas oublier que ce sont eux qui ont eu le plus de difficultés après la réunification. Ils ont perdu leur travail, les loyers ont bondi. Donc faire des comparaisons entre hier et aujourd'hui, ça n'a pas de sens.
Bianca fait référence en fait à tous ces sondages qui sortent en ce moment, qui disent notamment que 41% des Allemands de l'Est pensent être moins libres aujourd'hui qu'autrefois. Mmh. 78% disent souffrir de l'arbitraire de l'État. Ce sont des chiffres chocs qui questionnent l'Allemagne en cet automne de commémoration, parce qu'on voit réapparaître ce fameux mur dans les têtes qu'on pensait être en train de se fissurer il y a 10 ans. D'ailleurs, on avait fait un sujet à l'époque.
Absolument.
Dans les carnets.
C'est un aveu d'échec, Hélène ?
Oui, les commémorations de cette année diffèrent vraiment de ce qu'on a pu connaître il y a 10 ou même 5 ans. Ouais. Il y a une amertume générale. L'AFD révèle de vieilles blessures dont on ne voulait plus parler, qui éclatent aujourd'hui comme des bombes à retardement. C'est ce que m'a dit l'opposant Reinhard Weissoun.
Les gens de l'Est sont partis en masse vers l'Ouest. Après la chute du mur, c'était un flux continu tous les jours. Au total, plus de 4 millions de personnes, un quart de la population. Et cela a des conséquences. Il faut s'interroger, qui sont ceux qui sont restés ? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cette occasion ? À quoi pensaient-ils alors ? En fait, ils étaient immobiles dans tous les sens du terme. Et c'est un problème. Cette population n'avait aucune expérience de la démocratie et aussi de la réalité du monde moderne. Ce sont des fardeaux très lourds à porter.
Et aujourd'hui, tout cela remonte avec la peur de la mondialisation, de l'immigration, le sentiment de déclassement. On comprend alors le succès de l'AFD dans ces régions, qui est en passe de devenir vraiment le parti des gens de l'Est, en leur promettant de les défendre et de leur rendre leur dignité. Il est en recul partout à l'Ouest, mais à l'Est, il bat des records. Regardez les cartes électorales, Sophie, et vous verrez que le mur est de nouveau là, plus cimenté que jamais.
Voilà, et depuis ce reportage, l'AFD a encore fait parler d'elle début février, au moment de l'élection du président de la région de Thuringe. Le candidat libéral est passé grâce aux voix des élus d'extrême droite avant de démissionner. Mais la cacophonie a provoqué un séisme politique au niveau fédéral avec une autre démission, celle de la présidente du Parti conservateur, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui avait succédé Angela Merkel à la tête de la CDU. À suivre, on reste avec Hélène Kohl qui nous avait proposé le portrait d'un chanteur. Ancienne figure de l'opposition en RDA, un personnage, il s'appelle Wolf Biermann. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Les carnets d'été, c'est l'occasion de revenir sur certains moments forts de l'année passée. Et c'était le cas début novembre dernier, lorsque l'Allemagne commémorait les 30 ans de la chute du mur de Berlin.
Ce sont des commémorations qui ont eu un retentissement mondial, comme la portée de la fin de ce rideau de fer qui s'ouvrait sur l'Europe de l'Est et rebattait les cartes diplomatiques. Et c'était aussi l'occasion de constater que des clivages existent toujours entre les deux Allemagnes. La correspondante d'Europe 1, Hélène Kohl, avait alors rencontré un artiste, un chanteur, autrefois opposant en RDA l'Allemagne de l'Est. Le régime l'avait même contraint à l'exil tant il avait peur de ses textes. Cet homme, c'est Wolf Biermann. Cet automne, son autobiographie en français venait de sortir. Hélène Kohl nous avait permis de le rencontrer.
Son livre s'appelle « Ma vie de l'autre côté du mur » aux éditions Kalman-Lévy. Et c'est à double sens parce que Wolf Biermann, qui a aujourd'hui un petit peu plus de 80 ans, a vécu autant à l'Est qu'à l'Ouest. Il a été privé de ses droits civiques lors d'une tournée en RFA, donc quand il était à l'Ouest, en 1976. Et il n'a jamais pu remettre les pieds en RDA, où il avait toute sa vie, où il avait choisi même de vivre par conviction. Wolf Biermann, c'est un communiste, né dans une famille de militants. Son père a même été persécuté par les nazis et il est mort à Auschwitz. Aujourd'hui, il aime dire qu'il est le poète germano-allemand, avec son franc-parler, ses textes toujours provocants. Écoutez comme il se qualifie lui-même.
Un type insolent, intelligent et malicieux, comme un Gavroche.
C'est moi. Je suis le petit gentil Gavroche allemand.
Alors, ouais, physiquement, c'est plutôt un Brassens. Moustache, guitare et des poèmes engagés comme celui-ci contre le militarisme.
Soldat, soldat in grauer Norm, soldat, soldat in Uniform, soldat, soldat, ihr seid so viel, soldat, soldat, das ist kein Spiel.
Alors, on imagine bien, Hélène, que cette chanson était interdite en RDA?
Oui, à l'index, comme toutes les autres d'ailleurs. Dans sa bio, il raconte que des gens ont été emprisonnés pour avoir écouté ses disques, persécutés par la police politique pour avoir diffusé ses poèmes, ou juste écrit sur les murs quelques-uns de ses vers.
Lui-même était sous surveillance, hein ?
Évidemment. Après la réunification, il a pu voir le dossier que la Stasi avait constitué sur lui, 15 000 pages.
Wow.
Et il a eu jusqu'à 70 agents sur ses talons. En plus, il habitait juste en face de l'ambassade de la RFA, de l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest à Berlin-Est, un bâtiment que la Stasi avait mis sur écoute.
Dans chaque pièce, la moindre cave, le moindre double WC, jusqu'à la sous-porte, on avait installé des micros. Cela formait un amas de câbles de téléphone de plus de 30 cm de diamètre qui passaient sous la rue et aboutissaient dans mon immeuble. La Stasi avait besoin de tous les appartements possibles pour y installer ses agents qui écoutaient.
Et ça a inspiré un texte à ce Gavroche, une de ses ballades les plus subversives où il se moque des agents de la Stasi qui enregistrent tout jusqu'au moindre de ses pets, chante-t-il, et qui doivent le suivre par tous les temps.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten.
Et aujourd'hui encore, c'est l'un de ces anciens chiens de garde, un agent de la Stasi qui occupe son appartement.
Wow.
Récemment, il y est allé avec la plus jeune de ses filles qui est encore adolescente.
Elle me dit « Je veux aller dans ton appartement ». Je réponds « C'est pas possible, il y a l'espion dedans ». Elle est allée sonner. J'étais mal à l'aise. Car je ne veux pas me faire contaminer au contact de cette racaille. Mais je ne voulais pas non plus sermonner ma fille comme un vieux grand-père qui ronchonne. C'était très étrange.
À l'Ouest, Hélène, il a continué à écrire, à chanter ?
Oui, peut-être que quelques auditeurs se souviennent de leur manuel d'allemand dans les années 80-90. Alors, on étudiait les poèmes de Biermann, même si on le connaissait plutôt comme le beau-père de Nina Hagen. Hein.
Wow.
Alors, à cette époque, en fait, voilà, exactement, c'est lui. À cette époque, il ne va pas très bien. Il a le mal du pays, ses amis et ses ennemis lui manquent et il n'arrive pas à goûter à sa nouvelle liberté.
Richtig frei.
On ne peut se sentir libre réellement que dans les dictatures. Car quand on vit dans la liberté, on ne se sent pas libre. On est libre. La fleur de la liberté est toujours une fleur de cachot. Elle ne pousse que dans les cellules. Et quand la liberté est là, on ne la voit plus comme une fleur, mais comme un radis.
C'est très beau ça. Ça serait un sujet de philo pour le coup. Et puis Hélène, le mur est tombé.
Wolf Biermann dit que c'est le jour le plus heureux de sa vie, évidemment, parce qu'il ne pensait jamais voir cela.
Ouais.
Mais il dit aussi que c'était le jour le plus malheureux de sa vie. Écoutez avec quelle ironie il raconte sa soirée du 9 novembre à Hambourg.
Ils sont en train de faire la révolution sans moi, alors que je suis l'homme le plus important dans cette révolution, avec mes chansons révolutionnaires. Parce que c'est moi qui ai pendant des décennies alimenté le feu sacré chez ces gens. C'est grâce à moi qu'ils ont eu cette force de résister.
die Kraft gehabt, zu widerstehen.
Das ist meine C'est ma Revolution. Revolution. Bloß ich Je ne joue aucun rôle. Ils n'ont pas besoin de moi.
Notwendig.
Je suis là, devant ma télé.
Ich sitze an irgendeinem Fernsehapparat.
Je suis un nobody.
Bin ein nobody.
En réalité, les Allemands de l'Est ne l'ont pas oublié et dès le 1er décembre 89, il est invité à se produire à Leipzig au Palais des Congrès. 3 heures de concert et de lecture politique devant une foule gigantesque entassée dans les gradins.
Alors, c'est intéressant de savoir, Hélène, aujourd'hui, quel est son regard sur la réunification, sur ce qu'elle a produit.
Alors, il est très énervé par les discours politiques de récupération de cette révolution de 89 et d'une manière générale par l'attitude des Allemands de l'Est qui reprochent à la RFA de les avoir colonisés ou d'avoir fait une OPA sur leur pays.
Les Polonais, les Hongrois, les Tchèques auraient été ravis d'avoir un frère aussi riche et avec une telle mauvaise conscience. Les Allemands de l'Est doivent énormément aux Allemands de l'Ouest, tellement que cela en devient trop et qu'ils ne peuvent plus le supporter.
Wolf Biermann voit un mur se reformer entre les uns et les autres. Il constate par exemple combien les Allemands de l'Ouest sont extrêmement tournés vers l'extérieur, polyglottes, voyageurs, alors que les Allemands de l'Est revendiquent et entretiennent leur identité allemande.
Enfin, nous sommes de vrais Allemands. Pas des demi-russes. Pas une colonie russe, l'Allemagne. Nous sommes Allemands. Pas surprenant qu'autant de gens à l'Est votent AfD et soient nationalistes.
Avec philosophie, il dit que l'essor de l'extrême droite est sans doute le prix à payer, Sophie, pour ce miracle de 89.
Quand tout se passe si facilement, quand une révolution coûte si peu, que tout est tout à coup tellement confortable. Un vrai cadeau. Sans une goutte de sang. Sans guerre civile. Sans déclencher une troisième guerre mondiale. Alors l'addition arrive plus tard. Quelqu'un doit payer.
L'addition à payer, ce serait donc aujourd'hui. Il est assez pessimiste, dis donc, sur l'évolution de son pays.
Oui, il dit que c'est le seul moyen de ne pas être trop déçu dans la vie. Mais c'est un peu une posture, je pense. Wolf Biermann reste avant tout un bon vivant, drôle, tendre, attentif, une conscience de l'Allemagne d'aujourd'hui. Son livre n'est pas facile à lire, il faut bien le reconnaître. Il faut bien savoir l'histoire de l'Allemagne et l'histoire de la RDA. Mais c'est un témoignage clé de la part d'un artiste engagé qui a vécu des deux côtés du mur.
Voilà pour cette rencontre faite à l'automne dernier au moment des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et si ça vous a donné envie de lire cette biographie de Wolf Biermann, notez que c'est Kalman Levy qui l'a édité. Le titre « Ma vie de l'autre côté du mur ». Et Alan Cole nous avait aussi envoyé cette chanson de Biermann empruntée à Boris Vian. Vous la connaissez ? Chanson écrite en 1954 et qui est devenue avec le temps un hymne pacifiste. C'est « Le déserteur ».
Monsieur le Président, ob Sie sich wohl bequemen, ob Sie die Zeit sich nehmen und lesen meinen Brief. Mich hat's erwischt, ich hab die Musterungspapiere, ich muss in Krieg marschieren, schon Mittwoch geht es ab. Monsieur, ich geh nicht hin, ich will nicht diese Merde, ich leb nicht auf der Erde, damit ich Mörder bin. Was alle Welt längst weiß, sie sollen es endlich wissen. Monsieur, sie sind beschissen, die Kriege sind ein Scheiß. Von klein auf sah ich das, sah Väter, die krepieren, sah Brüder losmarschieren, sah Kinder Tränen nass. Der Mütter Schmerz und Wut, sah andere fröhlich prassen. Hurra und hoch die Tassen, Ahoi im Meer von Blut. Sah gute Kerz im Knast, gebrochen und verbogen, um ihre Frauen betrogen, um all ihr bisschen Glück. Bevor die Hähne krähen, verrammel ich die Türen, ich will mein Leben spüren und mach mich auf den Weg. Schnorr mir meinen Fraß, so komm ich durch ganz France, Bretagne bis Provence, und allen erzähl ich das. Sagt nein, wenn sie euch ziehen, sagt nein zum Exerzieren, sagt nein zum Kriege führen, sagt nein und geht nicht hin. Monsieur le Président, ihr seid fürs Blutvergießen. Allez,
lasst eures fließen, das wäre eine gute Tat. Und steckt den Bullen Bescheid, ich geh erst mal alleine und Waffen trag ich keine, mich knallt man lässig ab.
Le déserteur de Boris Vian, mais en allemand par Wolf Biermann. À suivre, un récit de Joseph Chovanec qui nous emmène du côté d'Oman. Cet été aussi, chaque dimanche, on clôt les carnets avec Joseph Chovanec. Joseph est philosophe, autiste Asperger, et c'est le plus grand voyageur de l'équipe, souvent par monts et par vaux. Joseph nous guide dans une contrée qu'il a nommée Autistan. C'est sa manière de regarder le monde, toujours avec beaucoup de poésie et d'érudition. Et ce jour-là, en janvier, il séjournait à Oman, dont le sultan très respecté venait de mourir après 50 ans de règne. Il était aux premières loges.
Vous vous souvenez sans doute, il y a longtemps, nous avions fait allusion à la perception différente de la pluie en Europe et dans les pays désertiques. Mmh. En Europe, pour beaucoup de gens, la pluie, c'est une sorte de gêne dont on attend la fin pour profiter à nouveau de ce que l'on appelle le, entre guillemets, beau temps. Mais dans le désert, la pluie, c'est une bénédiction. Mmh. Mieux encore, c'est un signe du destin, un signe du ciel. Par exemple, un mariage pendant lequel il se met à pleuvoir, c'est assurément un mariage heureux.
Signe du destin, car elle est rarissime, la pluie, évidemment.
Oui, ça n'arrive quasiment jamais. Hein. Pendant toutes les années où je me suis rendu dans le même village du désert d'Oman, Sophie, pas une seule fois, je n'y ai vu la pluie. Alors même que je m'y rends en janvier, ce qui est théoriquement la période la plus favorable. Mmh. Donc toute cette discussion sur la pluie restait assez théorique. Sauf que, voilà, plus rien n'est comme avant. Hein. Sans mauvais jeu de mots, le ciel est tombé sur la tête de mes amis omanais ces derniers jours. En effet, après un demi-siècle sur le trône, le sultan d'Oman, Qaboos ibn Saïd ibn Taïmour le Grand, est mort.
Ouais, on ne se rend pas bien compte d'ici à quel point cette disparition est un séisme à Oman.
Ah oui, un séisme de première magnitude. Les Omanais n'ont jamais connu d'autres sultans que lui. Et tout se faisait en son nom. Son portrait immuable avait fini par faire un avec les montagnes du désert. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'un jour il décède. On avait fini par penser qu'il était immortel. Mmh. En un demi-siècle de règne, c'est lui qui a bâti un pays moderne et paisible. Lorsqu'il était monté sur le trône en 1970, il n'y avait pas 10 kilomètres de route pavée dans tout le pays. Wow. Hein, et 3 écoles à tout casser. Mmh. Et c'est donc par son action qu'on peut avoir ce pays moderne et paisible que l'on sait.
Sa mort a été annoncée il y a 8 jours, samedi à l'aube. Comment les gens ont-ils réagi autour de vous ?
Il se trouve, Sophie, que le samedi 11 janvier au matin, j'étais à Salalah. C'est la grande ville du sud où d'ailleurs le sultan était né. Alors, les rues étaient vides, les gens en état de choc. Je me suis retrouvé assis à côté d'un monsieur omanais qui écoutait la radio. Il n'y avait pas vraiment d'émission, c'était des messages de deuil, des prières. Mmh. Et puis, soudain, une annonce officielle. Le speaker, d'une voix lente, après toutes sortes de pirouettes rhétoriques et dans un arabe éblouissant, avait fini par dire que Haytham ibn Tariq ibn Taïmour al-Saïd était le nouveau sultan d'Oman. Alors, grande émotion de mon voisin omanais qui se mit à sangloter.
À cause du chamboulement de la mort de l'ancien sultan ?
Oui, j'imagine, Sophie, l'émotion liée au bouleversement politique, mais aussi autre chose. En regardant la fenêtre, j'ai vite compris pourquoi mon voisin omanais pleurait. C'est que quasiment au même moment où était annoncé le nouveau sultan, la vitre s'était couverte de gouttes de pluie. Et la pluie s'est mise à tomber. Durant peut-être 2 ou 3 jours, selon les régions du pays. Alors certes, par intermittence, mais quand même, voire beaucoup. Et des amis omanais m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu le paysage aussi vert dans le village où je séjourne. En n'exagérant rien, ce n'est pas une pelouse à l'européenne, juste quelques bras d'air par-ci, par-là. Mais quand même, dans les médias occidentaux, on a eu l'inquiétude légitime que le changement sur le trône d'Oman allait apporter des troubles, des révoltes parmi les tribus, notamment rebelles dans le sud, la frontière avec le Yémen. Ces tribus qui avaient certes fini par faire allégeance au sultan précédent, mais pas encore au nouveau sultan. Mm-hmm. Mais il ne s'est rien passé. Le pays est resté parfaitement calme, quoique sous le choc.
C'est le tempérament de ce peuple, vous diriez ?
Oui, je pense que évidemment le tempérament paisible du peuple omanais a joué. Mais l'autre grand facteur, c'était justement les précipitations massives. Que l'avènement du nouveau sultan ait été bien arrosé, c'est certainement un signe du ciel. Ouais. Comme le diraient les vieux, « Al-Isharat tu'uni al-labiba anna al-ibarat ». Pour les gens intelligents, les signes valent beaucoup plus que les mots. Bonne chance au nouveau sultan.
Et le nouvel occupant du trône est le cousin du précédent et jusqu'alors ministre de la Culture. C'est la fin de ces carnets d'été. Merci de nous avoir accompagnés. Avec Marc Fréjean et Florence Gimalac, on continue de se plonger dans les grands reportages de l'année pour choisir d'autres bons moments à réécouter ensemble dimanche prochain. Bon dimanche à l'écoute d'Europe 1 et portez-vous bien.